L'idée, c'est de retourner dans le ventre de la mère nature pour renaître pur. On va en montagne pour pouvoir retourner en société, et on vit en société pour après retourner en montagne. Sauf pour peut-être l'une ou l'autre figure qui a choisi de vivre en ermite. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour les Yamabushi. Mon nom, c'est Robert Weiss. Je suis paléontologue au Luxembourg, au Muséum d'Histoire Naturelle. Et j'ai notamment travaillé sur le Japon, donc j'ai publié deux livres, Retour à Kyoto et Yamabushi, qui traitent de la culture japonaise. Pour donner un peu la traduction du mot Yamabushi, on peut traduire cela par ceux et celles qui séjournent dans les montagnes. Donc ça s'explique par le fait qu'au Moyen-Âge japonais, donc c'est une tradition qui remonte à plus de 1000 ans, très peu de gens allaient se promener dans les montagnes. C'était vraiment le domaine des bêtes féroces, des démons et des divinités. Donc on y allait peut-être pour la chasse ou pour des pèlerinages religieux, mais sinon on évitait de pénétrer les montagnes. Donc des gens qui séjournaient en montagne, c'était assez exceptionnel. C'est pour ça que on leur a donné le nom de ceux qui dorment en montagne, qui se couchent en montagne. C'est très souvent des gens qui l'ont choisi eux-mêmes. Très souvent, peut-être parce qu'ils ont eu une rupture dans leur biographie, ils se sont remis en question, ils se sont mis en fait dans une quête spirituelle ou dans une quête de sens. Et ils ont trouvé dans le Shugendo une réponse à leur questionnement. Beaucoup de personnes m'ont dit ça. Bon, ils auraient pu se tourner vers le bouddhisme tout simplement, par exemple, parce que c'est aussi une spiritualité, une religion. Mais ce qui les a attirés dans le Shugendo, c'est aussi vraiment l'activité physique en soi. Donc là, on peut relier un peu la quête spirituelle avec une activité physique en pleine nature. Et c'est en fait ça ce qui attire pas mal de personnes avec lesquelles je me suis entretenu. Ouais. Et parfois aussi, ce sont des personnes qui ont eu une vie professionnelle assez remplie. Une fois qu'ils ont pris la retraite, ils sont à la recherche d'autres choses et ils auront aussi le temps de se dédier à la pratique, et c'est aussi une très bonne façon de se maintenir en pleine forme, hein, parce que voilà, l'épreuve physique qui est souvent aussi accompagnée par une diète végane souvent, ou végétarienne au plus, donc ça peut être très salutaire, surtout à un certain âge, de suivre les pratiques des Yamabushi. On entraîne le corps, mais on entraîne aussi l'esprit grâce à ses enseignements spirituels. Il pratique le Shugendo, donc c'est une religion syncrétique qui puise ses racines dans le chamanisme qui est originaire en fait de Corée. En Corée, aujourd'hui encore, on trouve des chamans dans les montagnes. Et ça, cela s'est très vite mélangé au bouddhisme qui est arrivé au Japon au 7e siècle et aussi à la religion animiste du Japon, le shintoïsme. Donc dans le shintoïsme, le sacré réside dans les éléments naturels, comme ça peut être des rochers particuliers, ça peut être un arbre très vieux, ça peut être une cascade d'eau, ça peut être une rivière. Et après, il y a le bouddhisme qui a donné certains rituels au Yamabushi, au Shugendo. Donc le Shugendo, c'est en fait un mélange de certaines pratiques très anciennes liées au chamanisme des montagnes. Il n'y a pas vraiment de divinité ou de figure divine, mais c'est la nature elle-même qui est sacrée. Ce sacré se manifeste dans ce qu'on appelle les kami, donc les esprits. Il y a des millions et des millions de kami. Ça peut être une plante, ça peut être un arbre, ça peut être... En fait, c'est toute la création. Mais ça se limite pas au monde végétal ou animal, ça comprend le monde minéral. Donc on a très souvent des rochers qui ont une forme particulière, par exemple, qui sont vénérés en tant que divinités. On a des rivières, on a des cascades qui très souvent sont réputées le siège des kami, des esprits. Donc les Yamabushi considèrent aussi qu'il y a des millions de divinités présentes. L'histoire du Shugendo est bien évidemment liée à l'histoire du Japon. Le Shugendo était interdit à un certain moment lors de l'époque Meiji, donc c'est l'époque qui va de 1868 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça correspond aux périodes nationalistes. C'est l'époque où même le bouddhisme était relégué au second plan, et le Shugendo c'était un truc, un mélange, donc on ne savait pas trop ce que c'était, donc c'était interdit. Et ça s'est poursuivi en cachette, où pas mal de pratiques ont été perdues aussi. Alors on a instauré le shintoïsme comme religion d'État, donc il n'y avait plus la liberté des cultes. Voilà, donc si on étudie un peu l'histoire du Shugendo, forcément on en apprend beaucoup de choses sur l'histoire du Japon. Et d'ailleurs, beaucoup de Japonais ignorent ce courant religieux qui est très très minoritaire. Donc on parle de 6000 pratiquants sur le Japon, sur une population quand même de 120-130 millions d'habitants. Les Yamabushi, les ascèses, comme on dit, ils passent plusieurs journées en montagne, lors desquelles on va faire des marches assez longues, assez fatigantes, également pendant la nuit. Et on va s'arrêter en cours de route à certains endroits, par exemple des rochers ou des panoramas, des paysages particuliers. On va réciter des sutras du cœur. Et aussi, il y a des ascèses comme la méditation sous les cascades en montagne. Elle est réservée aux initiés, les débutants peuvent le faire par exemple en été, mais les Yamabushi affirmés, ils vont le faire aussi en hiver. Bon, là il y a certains risques, on a des températures de l'eau qui sont proches de 0 degré. Après il faut rajouter à ça aussi le débit de la cascade. Le jet d'eau qui va vous tomber sur le sommet du crâne peut provoquer des embolies. Donc dans le pire des cas, on peut subir une mort cérébrale. Donc là, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut s'entraîner à ça. Donc il faut le faire régulièrement. Les personnes avec lesquelles je me suis entretenu, par exemple, l'ont fait pendant 3 ans, tous les jours. Tous les jours, le matin, une vingtaine de minutes, on se met sous la cascade, on met les mains en prière et on récite des sutras pour effectivement se concentrer. Et le but de cette ascèse, c'est d'atteindre un état d'éveil ou un état de conscience augmenté. L'action de l'eau froide va provoquer une activation de certaines zones du cerveau qui ne sont peut-être pas activées chez les personnes qui ne pratiquent pas. On connaît ça, par exemple, on a fait des études sur les moines zen, comme le Dalai Lama, par exemple, qui ont l'habitude de méditer 4 à 5 heures par jour. Alors, leur cerveau comprend des régions qui sont stimulées et qui ne sont pas du tout stimulées chez les personnes normales ou qui ne font pas cette méditation. Et c'est un peu la même chose si on prend des bains d'eau froide réguliers, on va pouvoir replonger vraiment plus profondément dans le subconscient. Eux, ils parlaient de l'autre monde. Ils avaient des visions, en fait, des visions d'eux-mêmes quand ils étaient plus jeunes ou même des visions des débuts de l'humanité. C'est ce que plusieurs personnes m'ont effectivement reporté qui ont fait cette expérience.
Oh, ほら、世界中の 世界中の宗教がそうだと思うんだけど、やっぱ自然の環境とか自然が先生だからな、基本。そう思うとさ、なんかそこに身を置いていろいろ感じたりそういうことってすごい、お坊さんとしてもすごい大切な、いいアプローチだと思うし、いろんなね、いろんなアプローチが本当あると思うから。
Le mont Ontake, c'est le deuxième plus haut volcan du Japon après le mont Fuji. C'est une montagne qui est sacrée pour le Shugendo. On y organise des pèlerinages. Et là, il y a deux cascades qui sont très importantes. Et à l'époque, au Moyen-Âge, donc, pour accéder au sommet du mont Ontake, les fidèles, ils devaient séjourner au pied de la montagne où justement il y avait ces cascades pendant minimum un mois. Donc ils devaient se purifier en fait chaque jour dans les cascades pendant un mois avant d'être autorisés d'accéder au sommet. On retrouve toujours cet élément de l'eau lors des pèlerinages des Yamabushi. Les Yamabushi s'entraînent avec des épreuves physiques assez dures, mais le but c'est pas la pratique physique en soi. Le but c'est de s'entraîner en montagne pour ensuite retourner à la vie quotidienne qui souvent se déroule soit dans un temple ou soit dans une ville dans le cas de pratiquants laïcs, mais avec l'esprit de ce qu'on a appris durant l'ascèse en montagne. Donc en fait, il s'agit de se donner les outils d'affronter même les difficultés de tous les jours avec un autre état d'esprit. Il y a d'autres ascèses, comme par exemple la pendaison par les pieds. En fait, il y a un rocher qui tombe à pic sur une centaine de mètres. Et là, on va vous attacher par les pieds, on va vous retenir par les pieds. Vous avez l'impression de précipiter dans le vide, mais on vous retient par les jambes, en fait. Donc là, c'est vraiment une épreuve pour les personnes qui souffrent du vertige. C'est redoutable. C'est en fait un moment où il faut confesser ses péchés. Il faut aussi répondre à certaines questions. Si on ne répond pas, aujourd'hui, on ne va pas vous laisser tomber. Mais au Moyen-Âge, si on ne donnait pas de réponse satisfaisante, on vous laissait tomber dans le vide et on retrouverait les cadavres en bas. Ces pratiques sont très éprouvantes. Justement, une des raisons, c'est on a tous un ego plus ou moins développé. Alors, les Asiatiques, peut-être traditionnellement un peu moins que les Occidentaux. Mais l'idée, c'est vraiment de se débarrasser de son ego, de se débarrasser de son enveloppe corporelle. Bon, on ne va pas aller jusqu'à là. Bien sûr, les Yamabushi font des ascèses très éprouvantes. C'était courant que des Yamabushi décèdent en cours de pèlerinage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, le pèlerinage principal qui s'effectue à la fin de l'été, il va faire 6 ou 7 jours. Ils vont séjourner en montagne. Ils vont se nourrir un peu des racines sauvages, des fruits qu'ils vont trouver en montagne. Mais bon, c'est limité à 7 jours, donc ce ne sont plus des séjours de plusieurs mois. Il n'y a pratiquement plus personne qui fait ça à temps plein.
C'était Yamabushi, les ermites du Japon, premier épisode. Avec le paléontologue Robert Weiss. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.